Et au téléphone sonne ce soir donc la rentrée politique à 7 mois des municipales avec pas mal de dossiers épineux pour l'exécutif. Alors comment réformer sans se mettre à dos toute une partie des Français ? Il y aura la réforme des retraites qui va rentrer dans le dur, il y aura la PMA pour toutes qui pourrait bien redonner vie à la manif pour tous. Quid des projets écologiques du gouvernement et aussi des revendications diverses, des urgentistes, des agriculteurs ou des transporteurs, tout cela avec quel budget ? Un budget 2020 qui promet des baisses d'impôts. Un conseil des ministres donc ce matin, conseil de rentrée, un petit conseil court, un conseil de retrouvailles.
Oh, monsieur le ministre, monsieur le ministre.
Monsieur le secrétaire d'État.
Oh.
Monsieur le sous-secrétaire d'État. Monsieur...
Non, mais ça fait rien.
Mon vieux Septime, je ne vous ai pas raconté la meilleure.
Louis de Funès dans Le Grand Restaurant 1966. Les réformes donc, le discours et la méthode, c'est jusqu'à 20h. Le standard, vos questions, c'est au 01 45 24 7000.
Éric Delvaux. Le téléphone sonne.
Avec deux invités pour répondre à vos questions ce soir, deux experts. Jeannick Halimi, bonsoir.
Bonsoir Éric Delvaux.
Vous êtes rédactrice en chef adjointe du service politique du Parisien aujourd'hui en France. Oui. Et Marcelo Vesfred, bonjour Marcelo.
Bonsoir Éric.
Et journaliste au service politique du Figaro et vous suivez particulièrement l'actualité de l'exécutif. Le mois de septembre, je vous pose cette question, le mois de septembre pour l'exécutif, est-ce toujours une période à risque, quels que soient finalement les gouvernements, Jeannick Halimi?
Écoutez, si on se retourne un petit peu vers l'histoire, vers le passé, on s'attend toujours à des rentrées chaudes, des rentrées à risque, et elles ont lieu ou elles n'ont pas lieu. Alors pour uniquement se retourner sur les deux dernières années, c'est-à-dire le début du quinquennat d'Emmanuel Macron, la rentrée en 2017 devait être chaude parce qu'il y avait la fameuse réforme des ordonnances travail, de la flexibilité du marché du travail. Il y a eu des manifestations, la France n'a pas été bloquée, la réforme est passée. La rentrée 2018, c'était essentiellement la réforme du rail, notamment la réforme du rail.
Et le fret.
Et le fret, absolument. Et là, pareil, on s'attendait à ce que la France soit bloquée. Il y a eu, bien sûr, des manifestations, des grèves perlées, mais la France n'a pas été bloquée. Et la réforme, c'était d'ailleurs la rentrée dont je parle, pardonnez-moi, sur le transport, c'était la rentrée de janvier 2018. C'était une fausse rentrée. Et la rentrée, pardonnez-moi, 2018, vraiment, l'an dernier, c'était encore les effluves, j'allais dire, très déstabilisatrices de l'affaire Benalla. Et la réforme des retraites qui était déjà sur
déjà
le métier.
Dans les tuyaux,
et on sait que finalement, ça a été chaud en raison du mois de novembre et du déclenchement de la crise des Gilets jaunes. Tout ça pour dire qu'on peut s'attendre à beaucoup de choses, mais c'est souvent l'élément, l'étincelle qui vient, l'insolite,
qui vient perturber cette rentrée.
Absolument.
Emmanuel Macron, d'ailleurs, lors du Conseil des ministres ce matin, a réclamé à ses troupes d'être vigilants, de la bienveillance, donc, et on va en parler après, de la concertation aussi. C'est un peu la nouvelle communication du président Marcelo Vesfred.
Il est quand même préoccupé à l'idée que ça reparte, que ça explose. Et il ne veut surtout pas installer l'idée d'un président qui est déconnecté des risques et des réalités. Donc, il a quand même fait une pause estivale assez longue. Et donc, il ne faut surtout pas alimenter l'idée qu'il n'en a rien à faire. Donc, déjà, lors d'une sortie en marge de son séjour au fort de Brégançon, il avait dit « Attention, ça peut redémarrer ». Là, il redit la même chose. Et message qui a été relayé par sa porte-parole, Sibeth Ndiaye, tout à l'heure.
Effectivement, au fort de Brégançon, il avait dit il y a quelques jours « Je ne crois pas que ce qui a créé un moment de colère sincère d'une partie de la population soit derrière nous ». Donc il attend effectivement un beau volet d'emmerde, comme disait Jacques Chirac.
Qui arrive en escadrille, comme il le disait également.
Absolument. Un mot sur les Gilets jaunes, puisqu'on parle de ces moments de tension et de colère sincère de la population, tel qu'en a parlé Emmanuel Macron ce matin. Les Gilets jaunes qui continuent de manifester chaque samedi, même si on en parle un peu moins, beaucoup moins, est-ce qu'ils vont profiter de cette rentrée de ce mois de septembre pour reprendre un peu du poids, Jeannick Halimi?
On peut toujours dire qu'ils vont se saisir de toutes les opportunités. Il n'en manque pas. Vous en avez rappelé, Eric, au début, avec toutes les réformes qui sont sur, encore une fois, sur le métier et dans les limbes. Mais il faut reconnaître une chose tout de même, c'est que toutes ces réformes, pour le moment, leur contestation, les mouvements d'opposition qui émergent, en tout cas qui s'expriment, sont pour le moment encadrés par des structures classique,
j'allais dire,
par les syndicats, oui, ou par les partis politiques. Donc, il reste intermédiatisé, j'allais dire, ce qui n'est évidemment pas le cas des Gilets jaunes, qui était un mouvement créé ex nihilo, et surtout qui ne voulait pas, qui contestait tous les corps intermédiaires.
Donc, et qui ne voulait pas de porte-parole. Donc c'est compliqué
plus,
donc, de discuter avec
eux. En tout cas, qui multipliait les porte-paroles, effectivement, ce qui revient à dire qu'il n'en avait pas vraiment. Voilà, et puis il faut aussi reconnaître que, alors est-ce que c'est une façon de rentrer dans le système, que certains Gilets jaunes s'apprêtent à déposer des listes, à s'inscrire sur des listes municipales pour les élections. C'est une façon aussi de rentrer dans le grand lit de la contestation politique officielle. Mmh. Maintenant, encore une fois, personne ne saurait dire si le mouvement s'éteindra définitivement dans les mois qui viennent.
Alors cette rentrée politique avec un Conseil des ministres ce matin particulièrement court, Marcelo Vesfred, ça ressemble à quoi un Conseil des ministres de rentrée fin août? On a entendu Louis de Funès dans une parodie de rentrée politique. On ne travaille pas encore beaucoup dans un premier Conseil des ministres.
Non, c'est beaucoup d'images, de sourires sur le perron. Ça a duré 2h30 et 2h30 en temps macronien. C'est très peu pour un Conseil des ministres. Il suffisait de regarder l'ordre du jour de ce Conseil des ministres pour se rendre compte qu'on était dans un format un peu rikiki. Il y avait par exemple un décret sur réformant un petit point du code de la construction. Il y avait une ordonnance sur Wallis et Futuna pour un point très précis. Bref, c'était pas les grands textes. Et d'ailleurs, l'une des rares annonces de ce Conseil des ministres, c'est de dire qu'on va se retrouver tous les ministres, le 4 septembre, pour faire un séminaire gouvernemental, ce qui veut dire que la vraie rentrée, c'est un peu comme les enfants à l'école, ce sera début septembre. Mais là, c'était quand même l'occasion de réunir tout le monde et de montrer en gros que le gouvernement est à la tâche.
Avant de parler des prochaines réformes, encore un mot sur cette rentrée politique, cette rentrée du gouvernement. Elle a ceci de particulier qu'elle arrive à 7 mois de les élections municipales des 15 et 22 mars prochains. Dans quelle mesure cette échéance, Jenny Calimi, l'échéance municipale, va impacter le contenu des réformes?
Alors écoutez, quitte à vous décevoir Eric, je ne suis pas sûre qu'il y ait une influence rétroactive, si je puis dire, des élections municipales sur les réformes.
Il faut faire plaisir un peu aux Français plutôt que de les décevoir avant une échéance électorale.
Vous pensez bien que Emmanuel Macron, quand il était candidat, quand il a été élu, ainsi que son gouvernement lorsqu'il a été nommé, savait pertinemment qu'il allait avoir des municipales en mai 2020. Donc ce sont des choses qu'ils ont totalement intégrées. Et quand même, pour compléter ce que disait Marcello à l'instant, ce qu'a dit tout de même Emmanuel Macron cet après-midi après le Conseil des ministres, c'est que certes il fallait être vigilant et c'est le message qu'il allait donner et infuser à ses ministres, mais qu'il allait continuer à réformer. Donc sauf explosion comme les Gilets jaunes, encore une fois les municipales sont dans le calendrier bien évidemment républicain j'allais dire, et puis plus personnellement d'Emmanuel Macron et de son gouvernement, donc même si les retraites vont pas faire du bien, enfin vont provoquer des démangeaisons à certains, plus que ça d'ailleurs, même si la PMA, on en reparlera, va provoquer des mécontentements, c'est pas parce qu'il va y avoir des municipales que le calendrier programmatique, l'agenda programmatique de Macron et de Philippe changera.
Eh bien, je vois Marcelo Vesfred du service politique du Figaro qui semble pas, vous tendez un peu du nez, vous semblez pas complètement d'accord.
Je diverge un petit peu sur cette analyse, puisque il y a des axes mis en place par cet exécutif qui montrent bien quand même que cette élection, elle est cruciale pour eux. Ils veulent 10 000 conseillers municipaux, ils veulent un maillage. Et je prends juste deux exemples. Par exemple, l'écologie est un sujet. Ce pouvoir a bien vu que l'écologie a été un formidable argument électoral pour les européennes. Et on sent bien que l'idée est de faire à peu près la même chose pour ces municipales, et donc là, c'est l'une des priorités répétées de façon un peu obsessionnelle par le gouvernement pour les prochains mois. Et puis, je vais prendre juste un autre exemple. Quand on annonce dans ce budget 5 milliards d'impôts en moins, impôts sur le revenu, bon, tous les cadeaux fiscaux, on en reparlera peut-être tout à l'heure, tout ça, évidemment, peut avoir une incidence au moment
bien
où
sûr,
les Français
vont
voter.
Bien sûr, mais vous serez d'accord avec moi, Marcello, pour dire que tout ce que vous venez de dire en matière écologique et en matière fiscale sont les conséquences, pour la dernière, de la crise des Gilets jaunes, et pour la première, c'est-à-dire l'écologie, du grand débat qui a suivi.
Donc, on va parler du budget
après, qui ait un impact sur les municipales, bien sûr, mais qui ait un impact sur les décisions prises par le gouvernement ou un changement de position, je ne pense pas.
La rentrée des ministres, Emmanuel Macron, saison 3, ça a commencé ce matin avec le Conseil des ministres, on en parle jusqu'à 20h. Vos questions, c'est au standard de France Inter au 01 45 24 7000.
France Inter, Le téléphone sonne. Vos questions au 01 45 24 7000 et sur les réseaux sociaux avec le hashtag Telson.
Alors parmi les dossiers chauds de cette rentrée, le plus explosif, évidemment, ça reste celui de la réforme des retraites. FO, la CGT, Sudrail ont déjà appelé à manifester en septembre. Marcelo Westfred, est-ce que c'est de nature, ce projet de loi, à faire sauter la République, si j'ose dire?
C'est sur le papier le plus explosif puisque il vise à la fois, ou en tout cas il concerne à la fois les gens du privé et du public, qu'il s'agit d'unifier 42 régimes différents de retraite, on est là dans quelque chose qui n'est plus du sectoriel, et donc c'est effectivement extrêmement explosif sur le papier. C'est aussi présenté comme la mère des réformes par le pouvoir, donc on voit mal le pouvoir reculer sur ce sujet-là. La seule chose, c'est que ce sont les syndicats qui sont à la manœuvre pour essayer d'organiser quelque chose, en tout cas des mobilisations fin septembre. Or, les syndicats, dans les différentes occasions qu'ils ont eues dans ce quinquennat, n'ont pour l'instant pas réussi, et dernier exemple en date, à mobiliser sur l'assurance chômage, par exemple, une réforme très importante a été lancée et annoncée par le gouvernement avant l'été. Ils n'ont pas réussi à mobiliser. Donc, il va y avoir vraiment pour eux un sujet, alors qu'actuellement, les mobilisations qui prennent forme sont des mobilisations sur des formes différentes, type les gilets jaunes, type les urgentistes.
Les corps intermédiaires peu mobilisateurs, et pareil pour l'opposition. Position politique, ça laisse un boulevard, Jeannick Halimi, pour l'exécutif, pour faire passer les réformes tout de même.
Un boulevard sur lequel il peut avoir beaucoup de manifestants quand même, Eric, et des avenues sur lesquelles le pavé peut être battu, si je puis dire. Mais tout de même, vous avez raison, vous parliez des syndicats et des forces politiques. Les syndicats sont divisés, même si ils ont une contestation, y compris de la CFDT, qui conteste certains éléments de la réforme, mais qui ne manifeste pas et qui est plutôt favorable au principe général de cette réforme. Et même les trois autres syndicats qui défileront en ordre dispersé. Mmh. Pareil pour les partis politiques. Les partis politiques, la droite va estimer fondamentalement, la droite est plutôt favorable sur le fond. Oui. Alors bien évidemment, voilà, sur la réforme des retraites, alors que le PS n'est pas fondamentalement contre, puisqu'il y a eu aussi des éléments de report de l'âge sous François Hollande, mais elle s'y opposera. Donc vous voyez que l'opposition, tant syndicale que politique, va être divisée. Et rappelons aussi quand même que dans l'esprit d'Emmanuel Macron, cette réforme se veut fondamentalement égalitariste, non pas de gauche, puisqu'il récuse les noms, le principe, le clivage
de droite et de gauche.
Mais la suppression dont parlait tout à l'heure Marcelo, la suppression des régimes spéciaux pour...
Tout le monde l'a réclamé, il y avait trop de niches.
Trop de niches. Et Emmanuel Macron, vous savez qu'il avait participé à ce fameux rapport Attali qui voulait supprimer les corporatismes et les privilèges. Mmh. Et dans cet état d'esprit, il estime que c'est plutôt une réforme qui va dans le sens de l'égalité. Il n'empêche que des efforts seront demandés à tout le monde également.
Marcelo Westfred du Figaro.
Alors pour éviter que ça ne dégénère trop, il y a toute une concertation qui est un peu remise en scène en ce début septembre. Mais il y a aussi, et ça c'est un peu nouveau, l'idée d'associer les citoyens. Alors, on ne sait pas à quoi ça va ressembler. C'est assez
nébuleux. C'est la consultation citoyenne annoncée ce matin.
Voilà, consultation, concertation. Pour l'instant, c'est pas ce qu'Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, a derrière la tête. Mais on voit bien que l'idée est de mettre en scène quelque chose qui ne soit pas que une discussion, on va dire, institutionnelle avec les corps intermédiaires, mais aussi une sorte de mini grand débat pour montrer que l'avis des gens a été pris en compte. Ce qui ne veut pas dire que la réforme serait modifiée en cas de désaccord.
Oui, ça semble être un peu une forme de talisman pour le gouvernement qu'il avait déjà mis en place, vous savez, cette consultation citoyenne après tirage au sort, après le grand débat, et qui va le mettre en place...
Qui faisait suite à la colère des Gilets jaunes.
Voilà, oui, absolument. Et qui va le mettre en place également, cette concertation citoyenne avec tirage au sort, pour tout ce qui est écologie dans les jours qui viennent.
Consultation, vigilance, bienveillance, j'y reviens, ça correspond à l'arrivée d'un nouvel homme de communication dans l'entourage d'Emmanuel Macron.
Alors, ça, c'était déjà l'idée qu'on avait au moment où de forte impopularité du président, essayer de changer la méthode. Vous savez, quand on dit, si on veut pas changer le cap, on dit, je vais au moins changer la méthode. Et c'était là-dessus qu'Emmanuel Macron avait promis de changer ce qu'il a appelé l'acte 2. Il en a reparlé ce matin en Conseil des ministres en disant, il faut écouter un peu plus, il faut de la concertation. Mais c'est vrai que ça s'accompagne aussi d'un changement sur la communication, puisque on se souvient, début du quinquennat, le président de la République est sur une communication très verticale, il parle peu,
jupitérienne,
on a dit, il verrouille beaucoup. Puis, il se rend compte qu'il faut quand même un peu fluidifier les messages, et il tente des choses, il fait une conférence de presse, il tente de parler un peu plus aux journalistes, et après plusieurs mois d'hésitation, il a enfin décidé, tranché et pris un conseiller en communication, puisque le poste était vacant depuis le départ de Sibeth Ndiaye début avril. Et c'est Joseph Zimet qui... Alors ça a été une surprise, puisque...
D'où vient-il ?
Alors, c'est un historien. Il avait travaillé dans les cabinets socialistes, notamment, il est d'inspiration, enfin de mouvance strauss-kahnienne. Et surtout, il avait travaillé avec la mission du centenaire. C'est un peu comme ça d'ailleurs que Emmanuel Macron l'a connu. Il avait travaillé sur toutes les commémorations. C'est un historien, c'est quelqu'un, ce n'est pas un communicant pur jus. Par exemple, il n'a pas de compte Twitter. C'est quelqu'un qui, au contraire, c'est un peu comme ça qu'on peut l'interpréter, est là pour essayer de construire un storytelling. Et à l'heure où on parle, le président de la République a reçu les journalistes de ce qu'on appelle l'association de la presse présidentielle, où il a présenté Joseph Zimet.
On en parlera dans un instant. Je voudrais revenir sur cette réforme des retraites. Quand la droite parle de reniement d'Emmanuel Macron sur les retraites, elle n'a pas complètement tort, car l'âge légal de départ à la retraite à 62 ans ne devait pas bouger dans les promesses présidentielles. Or, la réforme va bel et bien dissuader les salariés de partir à cet âge de 62 ans. On passera plutôt à 64 ans en 2025. C'est bien un reniement par rapport à ces promesses, Jenny Calimi ?
Oui, tout de même, puisque effectivement Emmanuel Macron, vous l'avez dit, avait affirmé qu'il ne toucherait pas à cet âge légal de 62 ans. De fait, il utilise une sorte d'argutie sémantique en parlant d'un âge pivot, mais vous avez parfaitement raison, ce sera totalement dissuasif de partir avant 64 ans. Mais vous voyez que la droite plutôt attaque sur la promesse non tenue que sur le fond. Parce que s'il y a bien des gouvernements et des présidents qui ont petit à petit reporté l'âge de la retraite par la durée de cotisation, par la retraite, le report, le recul de l'âge légal de départ à la retraite, c'est bien des gouvernements de droite, notamment avec François Fillon sous Nicolas Sarkozy, Monsieur Juppé également avec Jacques Chirac, et on peut estimer aussi que c'est le réalisme au regard d'un tas de données. On va pas se lancer dans ce débat, mais de l'âge de l'allongement de la vie en bonne santé. Donc, voyez que la droite tout de même est un peu gênée aux entournures. Oui, sur la forme, ils ont raison. Sur le fond, ils sont renvoyés à leur propre politique.
Les réformes du gouvernement, la saison 3 d'Emmanuel Macron a commencé ce matin en Conseil des ministres. Vos questions au standard de France Inter 01 45 24 7000. Avec Astrid qui nous appelle d'Antibes. Bonsoir Astrid.
Bonsoir et merci pour vos émissions.
C'est gentil. Quelle est votre question ?
Alors, elle est simple, ça concerne la loi de bioéthique et notamment la PMA. Et donc, j'ai entendu dire que la Manif pour tous avait prévu une mobilisation en octobre. Et je voulais savoir, est-ce que le gouvernement est prêt à faire face à cette manifestation ?
Eh bien, on va poser, merci de cette question, on va la soumettre à nos deux invités, Jenny Calimi, rédactrice en chef adjointe du service politique du Parisien aujourd'hui en France, et Marcelo Vesfred, journaliste au service politique du Figaro. Cette perspective des lois bioéthiques avec effectivement l'extension de la PMA pour les femmes seules ou en couple, ça va réveiller effectivement les manifestants contre le mariage pour tous. Est-ce que ça risque d'être une opposition sévère, voire frontale, dans la rue, Marcelo Vesfred ?
Alors, il y a effectivement un appel à mobilisation d'une vingtaine d'associations et de la Manif pour tous, hein, avec des slogans type « liberté, égalité, paternité hein, ». Voilà. Alors, je crois que c'est le 4 octobre, mais le gouvernement n'est pas dans la même situation que ce qu'avait connu François Hollande en 2013, pour plusieurs raisons. D'abord parce que François Hollande avait vraiment étalé dans le temps le processus qui avait laissé, ce qui avait permis à l'opposition de se cristalliser dans la rue et au mouvement de s'amplifier chaque semaine un peu plus. Là, l'idée étant un peu de comprimer les choses. Ensuite, parce que l'opposition, cette fois-ci parlementaire, est gênée aux entournures par la question de la PMA, puisque la droite a subi un échec cuisant aux européennes, avec une droite, on va dire, plus conservatrice moralement, François-Xavier Bellamy. Et donc, sur cette question de la bioéthique, est-ce qu'elle va se reconstruire en bloc? C'est pas sûr. D'ailleurs, elle ne donne pas, a priori, de consigne de vote sur ce texte-là, ce qui montre bien qu'elle n'en fera pas l'alpha et l'oméga de sa reconstruction. Et donc, à mon avis, on est dans un cas de figure un petit peu différent.
Cela dit, Marcelo Westfred, il y en a un qui entend bien surfer à droite chez les Républicains sur cette PMA, c'est Guillaume Larrivé, l'un des candidats à la présidence du parti les Républicains. Il veut même déposer une proposition de loi constitutionnelle pour empêcher la GPA, ce serait le coup d'après selon lui, hein, cette gestation pour autrui associée à la marchandisation du corps humain. Yannick Halimi, cette proposition de loi constitutionnelle pour empêcher une GPA, ça a des chances d'arriver à terme, pardon pour si j'ose dire dans le contexte.
Oui. Je ne le pense pas. Déjà, juridiquement, ça, j'avoue que je n'en sais rien, mais politiquement, Marcelo a parfaitement raison. Le groupe Les LR ne donne pas de consigne de vote, même si Christian Jacob a dit que le président du groupe à l'Assemblée qu'il s'y opposerait. Je reviendrai pas là-dessus. Et Marcelo, je pense, a tout dit. J'ajouterai juste une chose par rapport au gouvernement, qui était votre question initiale. C'est que le gouvernement, oui, s'attendait, bien évidemment, en tirant les leçons du mariage pour tous, à ce qu'il y ait une opposition sinon frontale, en tout cas d'idées, de fond, est tout à fait légitime. C'est pour ça que des assises de la bioéthique ont été mises en place.
Et ça va venir vite à l'Assemblée et au Parlement en général.
La PMA, oui, va venir de mémoire à l'Assemblée. Il y a d'abord une commission spéciale qui est réunie à l'Assemblée nationale le 26 septembre.
Oui, enfin, c'est rapide.
Voilà, dans un mois. Ouais. Et après, les débats qui vont...
26 août,
pardonnez-moi, vous avez raison.
Oui, excuse-moi. En septembre,
on mettra ça devant les députés au Parlement.
Les députés. Et donc, juste ces assises se sont passées dans un état d'esprit de la vie de tous les participants, hein, totalement, on va dire, enrichissant et tolérant et ouvert. Et même l'épiscopat et même certains des chefs de la Manif pour tous estiment qu'il n'y aura pas la virulence qu'il y a pu avoir dans l'opposition manifestée il y a 6 ans.
Marcelo Westfred.
Ce débat porte sur la PMA, mais en fait, si sur la PMA, à mon avis, ça devrait pour le gouvernement se passer plutôt bien par rapport à ses objectifs. En revanche, derrière, il y a d'autres textes sur la bioéthique qui, eux, peuvent réserver des tas de bombinettes ou de bombes tout court.
Par exemple,
sur la recherche sur l'embryon, sur l'autocongélation des ovocytes pour les femmes de moins de 35 ans. Il y a une liste comme ça de sujets qui, pour l'instant, n'ont pas été investis par la société civile, que les gens vont découvrir. Et à ce moment-là, on peut se retrouver avec des polémiques qui seront beaucoup moins attendues que celles sur l'extension de la PMA aux couples de femmes homosexuelles ou aux femmes seules.
Un mot sur l'écologie, les ambitions écologiques du gouvernement. On rappelle que Nicolas Hulot est parti il y a pile un an. Son successeur, François de Rugy, a été prié de partir, lui, pour des soupçons de train de vie. L'actuel ministère de la Transition écologique a été confié à Brune Poirson sous la houlette d'Elisabeth Borne au ministère des Transports. Au final, je vous pose la question, Marcelo Westfred, au final, que reste-t-il des ambitions écologiques d'Emmanuel Macron?
C'est tout le paradoxe, c'est-à-dire que on ne parle plus que d'écologie. Et en même temps, c'est le troisième ministre d'affilée avec Elisabeth Borne sur le dossier. Nicolas Hulot est parti sur un constat d'échec. François de Rugy n'a pas eu le temps de faire des mesures, on va dire, emblématiques. Et Elisabeth Borne est une figure peu connue, plutôt technocrate. On verra si elle s'en sort. Hein. Et finalement, l'écologie va être représentée par un texte, qui est le texte qu'a présenté Brune Poirson début juillet au Conseil des ministres, qui est un texte...
Sur l'économie circulaire.
Oui, et en fait, c'est un texte sur l'écologie du quotidien, c'est-à-dire le recyclage...
Contre le gaspillage alimentaire,
contre
notamment.
Non, le gaspillage non alimentaire, justement, tout ce qui est les jouets, les invendus, en fait. Et
donc, plastique aussi.
Plastique,
et plastique.
Et en fait, c'est peut-être l'idée d'aller vers une écologie qui soit moins idéologisée, c'est moins les combats pour ou contre le nucléaire, mais qu'est-ce qu'on fait de son vélo qu'on va recycler, qu'est-ce qu'on fait de la décharge municipale, bref, tenter une sorte d'écologie plus consensuelle qui est un argument de vente aussi pour rassembler au municipal.
Jenny Calimi.
Il y a, oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Dans une interview que Mme Borne nous avait donnée il y a un mois, elle disait qu'elle voulait être, vous avez raison Marcelo, la ministre des résultats. Donc c'est bien des éléments très concrets. Alors évidemment, notamment Europe Écologie Les Verts et la gauche dit que la Macronie n'est pas du tout verte. Il y a qu'à voir la ratification de l'accord sur le CETA qui pour eux est anti-écologique, les abandons, les démissions sur l'agenda contre les pesticides, pardonnez-moi, le report. Bon, voilà. Mais il n'empêche qu'au-delà de la loi anti-gaspillage, il y a aussi tout de même des éléments qui, selon la Macronie, suffisent quand même à vendre, entre guillemets, l'écologie, à la faire passer dans les faits. Il y a cette consultation citoyenne dont on parlait tout à l'heure avec des citoyens qui vont être tirés au sort. Et puis, il y a aussi la loi énergie-climat, qui, bien sûr, qui va être aussi également discutée au Sénat prochainement, qui n'est pas suffisante pour les écologistes et une partie de la gauche, mais qui rappelle l'agenda, les trajectoires en matière de neutralité carbone, de baisse d'énergie fossile, des choses qui, pour Emmanuel Macron, en tout cas, servent de fondement, de base et de légitimité à son côté écologique. Et puis aussi, n'oublions pas, nous parlions des municipales tout à l'heure, à sa volonté de conquête d'un électorat écologiste ou de gauche et écologiste, qui reste en revanche une de ses obsessions pour cette rentrée.
Alors on a parlé des réformes, il faut aussi parler de la douloureuse, hein, la note qu'il va bien falloir régler entre les premières baisses d'impôts et les milliards débloqués en pleine crise des gilets jaunes, ça fait environ 17 milliards à dépenser. Comment sera construit le budget 2020, Marcelo Westfred ?
Eh bien écoutez, le gouvernement a de la chance, hein, parce qu'il y a un miracle qui s'est passé, c'est que les taux sont bas, sont même négatifs hein, sur certaines périodes. Et du coup, le gouvernement qui a finalement annoncé très peu de réduction d'économie va pouvoir bénéficier presque mécaniquement engendre mécaniquement ces taux d'intérêt très bas, engendre mécaniquement plusieurs milliards d'euros d'économies, ce qui va permettre de financer des gestes fiscaux qui ont été faits après le grand débat national, à savoir par exemple les 5 milliards de réduction sur l'impôt sur le revenu, mais aussi la suppression totale de la taxe d'habitation. Seul bémol,
c'est que cette taxe d'habitation, elle ne compense pas, la suppression de la hausse de la CSG n'est pas compensée par la suppression de la taxe d'habitation en 2020 pour les retraités en tout cas. Et donc, visiblement, il y a des retraités qui vont être mécontents cette année et l'an prochain.
Et puis, il y a un deuxième point, c'est que c'est bien beau d'avoir cette conjoncture financière, sauf que le gouvernement n'a absolument pas la main sur cette conjoncture et que cette conjoncture peut aujourd'hui nous favorise. Si elle se retourne, ce serait évidemment extrêmement difficile pour les comptes publics.
Allez, on retourne au standard. Vos questions sur les réformes et les financements de l'exécutif 01 45 24 7000 avec Alain. Bonsoir Alain.
Oui, bonsoir.
Vous nous appelez de Haute-Garonne, je crois.
Oui, de Tournefeuille, c'est une commune limitrophe de Toulouse.
Quelle est votre question ?
C'était un témoignage. Contrairement à ce que vous disiez tout à l'heure, ça n'est pas le cas partout. Ici, à Tournefeuille, ma CSG, j'avais une retraite de 2540 euros.
Vous êtes un retraité ?
Je suis un jeune retraité, oui.
Oui.
Donc, ma CSG a monté de 40 euros par mois, ce qui fait 480 euros annuels, et ma taxe d'habitation a baissé de 1100 euros. Tous les retraités n'ont pas bénéficié de cela, mais ici, à Tournefeuille, nous en avons bénéficié. Voilà.
Ben, merci de ce témoignage. Donc, on rappelle que le but, hein, c'était bien de compenser la hausse de la CSG par la suppression de la taxe d'habitation. Or, a priori, si on en croit le rapporteur général du budget à l'Assemblée nationale, la moitié des retraités seraient perdants en 2020 encore. Je vous pose la question, est-ce que c'était une erreur de calcul de Bercy ou est-ce que c'était prévu que les retraités soient perdants, Jenny Calimi ?
Non, c'était entre guillemets prévu.
C'était
anticipé parce que il y avait cette grande réforme de société en tout cas voulu par Emmanuel Macron, qui était de favoriser l'emploi par rapport aux inactifs. C'était une façon pour lui d'expliquer et de déclencher cette spirale qu'il voulait vertueuse de la création d'emplois et de la croissance économique et de création. Donc c'était voulu. En revanche, l'erreur a été reconnue, parce que ça a été dit explicitement au moment de la crise des Gilets jaunes, je crois, par Emmanuel Macron, en tout cas par certains de ses ministres.
Oui, il y a eu un couac de communication, d'ailleurs, il me semble, là-dessus.
Voilà, exactement, qui était de dire les personnes, les retraités, ça a été notre grosse erreur. Et les retraités ont beaucoup voté pour les Républicains au premier tour. Ils avaient beaucoup voté pour Emmanuel Macron au second tour de la présidentielle. Les Républicains n'ont pas su, pendant la crise des Gilets jaunes, se refidéliser cet électorat. Il semble, selon les dernières études, que les retraités se remettent à voter pour La République En Marche et donc pour Emmanuel Macron, quoi, pour La République En Marche. Il n'empêche que ça a été une erreur reconnue de la part de l'exécutif.
Et puis il y a donc cette perspective des municipales les 15 et 22 mars prochains. On va parler des municipales à présent. Ça va permettre à l'exécutif notamment de savoir si le macronisme est capable de s'enraciner dans les strates les plus locales de la France. C'est donc une étape tout de même très importante pour Emmanuel Macron, Marcelo Vesfred.
Oui, parce que les européennes, c'est une élection toujours un peu spéciale. D'ailleurs, les écologistes, par exemple, font toujours des très bons scores aux européennes et derrière ont du mal à transformer l'essai. Les municipales, c'est le maillage territorial, c'est avoir des gens partout. C'est pour un parti qui n'a aucun élu sortant quasiment un enjeu crucial. Et la stratégie adoptée par La République En Marche, c'est de jouer placé et non pas gagnant, c'est-à-dire d'avoir le maximum de conseillers municipaux, d'adjoints, voire de maires, un peu partout, et pas forcément d'arracher des grandes villes. Il y a un enjeu, pour l'instant, la seule ville vraiment emblématique qu'ils aient, c'est Lyon, à travers le cas de Gérard Collomb, mais quid de Paris, que va-t-il se passer dans un certain nombre de villes? Pour eux, c'est vraiment là qu'ils vont savoir si effectivement ils sont rentrés, on va dire, dans les entrailles du pays ou non.
Sauf que La République En Marche est compte tenu du manque d'élus locaux, il va y avoir des alliances dans les grandes villes avec des maires sortants Macron compatibles, Modem et autres LR, par exemple, à Marseille. Et ça, localement, forcément, les macronistes toussent un peu en voyant des alliances avec des amis de terrain, des ennemis politiques de terrain.
Dès le premier tour.
Dès le premier tour,
effectivement, Emmanuel Macron a dû rabattre ses prétentions parce qu'il voulait faire ce qu'il avait fait aux législatives et puis aux législatives, c'est-à-dire présenter des candidats République En Marche, mais dissuader d'autres candidats PS, Verts peut-être et LR de se présenter pour faire une sorte de grande majorité transpartisane derrière un candidat à La République En Marche. Il s'est aperçu que c'était beaucoup plus compliqué que ça, parce que tant les socialistes et surtout les républicains ou les divers droites avaient des fiefs bien enracinés, donc ils ont rabattu leurs prétentions. Comme le disait Marcelo, ils veulent maintenant le plus de conseillers municipaux. Pourquoi ? Pour pouvoir avoir le Sénat dans un an, puisque les conseillers municipaux représentent plus des trois quarts des grands électeurs du Sénat.
Et le Sénat, élections indirectes par les maires, par les locaux.
Par les locaux, c'est ça. Et le Sénat, autant l'Assemblée nationale et La République En Marche, en a l'hégémonie. Le Sénat ne représente pratiquement rien. Et donc, vous avez raison, non seulement ils n'auront pas des candidats dès le premier tour, alors que ça avait suscité beaucoup d'enthousiasme de la part de certains référents de La République En Marche sur le terrain. Donc, ça crée des dissensions au sein du parti de La République En Marche, et se posera aussi la question des alliances. On sait que les socialistes et les écologistes ont dit qu'ils ne feraient pas d'alliance au second tour, surtout les écologistes, il faut le dire de façon explicite.
Ils veulent y aller
avec
seuls,
La République
au départ,
En Marche. Oui, et pas d'alliance non plus au second tour avec La République En Marche. Le patron David Cormand l'a dit, Yannick Jadot l'a répété. Les socialistes vont être gênés aux entournures, mais ils vont essayer de ne pas en faire. Donc c'est vrai que c'est un problème d'enracinement, et même pour La République En Marche, et même dans certains coins, Bordeaux également, peut-être Rennes, des problèmes internes à La République En Marche ou à la majorité avec le MoDem.
Marcelo Westfred.
Le MoDem, justement, dont parle Jeannick Halimi, le MoDem avait essayé déjà cette stratégie, il y a quelques années, d'alliance à la carte, un coup avec des gens à gauche, un coup avec des gens à droite, en disant il faut justement arrêter, dépasser les vieux clivages, tout ce qui compte c'est l'intérêt général, l'intérêt des électeurs, et ça avait été illisible. Et là c'est vrai que je laisse de côté évidemment ce que vient d'être dire sur les consignes des états-majors, mais localement les macronistes feront alliance avec un maire sortant de gauche,
mais
avec un maire sortant de droite, et c'est toujours très difficile à lire et à porter un discours national quand on est dans des stratégies comme ça, du coup par coup.
Emmanuel Macron et Édouard Philippe, son Premier ministre, vont bientôt fixer les règles de compatibilité que pour les ministres qui auraient des ambitions municipales. Quel est le point de vue de l'exécutif? Est-ce qu'on pourra rester ministre et maire? Qui veut répondre à cette question? Marcelo Westphal.
Alors, la tendance qui se dessine, parce que pour l'instant la règle n'a pas été établie, mais c'est qu'on pourra rester au gouvernement si par exemple on est colistier, on est sur 10e, 11e, 3e sur une liste. On pourra rester au gouvernement si on est tête de liste d'une petite ville. Alors ça concerne par exemple Sébastien Lecornu, qui a été longtemps maire
à Vernon, c'est ça.
Dans l'Eure. En revanche, la règle n'a pas été décidée pour les ministres qui seraient candidats sur une très grande ville. Prenons par exemple Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics.
Qui veut être à Tourcoing, lui.
À Tourcoing. Tourcoing, c'est quand même grand. C'est très grand. Alors, pour l'instant, le gouvernement, Édouard Philippe en l'occurrence, attend de savoir si ça va concerner un ministre, deux ministres. En fait, les cas de figure sont très faibles, très, très peu nombreux, puisque les cas qu'on connaissait comme Benjamin Griveaux ou Gérard Collomb, tout ça sont des cas qui maintenant concernent des ministres qui ne sont plus au gouvernement.
On parle d'Elisabeth Borne tout de même au transport à Montrouge, près de Paris. On parle de le ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume, à Biarritz également.
Alors oui, mais alors ce serait de toute façon, enfin, dans ces deux cas de figure, ils ne seront vraisemblablement pas tête de liste. Donc on serait, dans le cas d'Elisabeth Borne, sur un cas de colistière à Montrouge. Dans le cas de Didier Guillaume, il souhaitait manifestement arriver à Biarritz, mais c'est compliqué parce que le maire MoDem présent et sortant se représente manifestement.
Il y a juste un effet collatéral de ce que vous dites, c'est-à-dire des ministres qui pourraient quand même être amenés à quitter le gouvernement, c'est que ce gouvernement, en cette rentrée, reste aléatoire. Puisqu'il y a les 4 ou 5 quand même grandes ministres qui pourraient être amenés à partir. Il y a une Elisabeth Borne qui vient de remplacer, tout de même, il y a une petite crise gouvernementale avec
François de Rugy.
Voilà, François de Rugy. Il y a des ministères qui sont énormes et dont on parle de l'éclatement d'une répartition des tâches plus équilibrée qui peut être celle d'Elisabeth Borne ou de Madame Buzyn avec des secrétaires d'État en plus. Et en plus, il y a bien sûr le point d'interrogation sur Christophe Castaner qui a été, on le sait, fragilisé pendant la crise des Gilets jaunes et pendant l'affaire de Steve cet été. On verra ce qu'il en sera pendant le G7. C'est une sorte de test de passage. Soit ça passe, soit ça casse pour Christophe Castaner. Donc vous voyez que cette rentrée peut toucher aussi à la substantifique moelle d'un gouvernement qui reste encore avec des membres dont l'avenir reste en question.
En question. Et puis il y a cette rumeur. Bah, je vous la soumets tout de même sur le cas Édouard Philippe. Est-ce qu'il pourrait être candidat de secours à Paris? Ça vous dit quelque chose, Gisèle Halimi? Jeannick Halimi, pardon.
Ça avait circulé, pour Le Havre dont il a été le maire. Ça a circulé aussi en début de cet été, d'ailleurs, une rumeur qui circulait et qui a été affichée, exprimée officiellement par Antoine Ruffnac, qui est l'ancien maire du Havre qui a fait, entre guillemets, Édouard Philippe. On se demandait si c'était pour l'aider ou au contraire le baiser qui tue. Ce serait compliqué, je crois, tout de même, pour Emmanuel Macron défaire des services d'un Premier ministre qui remplit pour
qui
le moment,
le job,
qui coche toutes les cases jusqu'à présent.
Il coche toutes les cases, effectivement. Le remplacer par qui? Ça poserait quand même beaucoup de problèmes. Paris, pour l'instant, il y a un candidat investi, Benjamin Griveaux. Donc ça voudrait dire qu'il faudrait quand même qu'il y ait un crash, avant que ce soit une solution de remplacement soit établie. Et puis ensuite, je vois mal pour l'instant le Premier ministre aller dans cette bataille des municipales, parce qu'il y aurait plus de pertes pour le président que de gains.
Alors, s'il y a pas mal de flou sur le nombre de ministres qui seraient candidats aux municipales et à quelle place, est-ce que ça annonce tout de même, est-ce qu'on prévoit, est-ce qu'on anticipe un proche remaniement ministériel ou ce n'est pas dans les tuyaux?
Alors, il y a quelques minutes, le président de la République a dit aux journalistes qu'il a reçu qu'il n'y aurait pas de remaniement. Mais alors, vous savez, c'est comme au football. Hein, on dit toujours que les présidents de club disent toujours qu'ils ont le maximum de confiance en leur entraîneur jusqu'au moment où ils le virent. Donc, on n'en sait rien. Ces assurances n'engagent que ceux qui y croient. Mais a priori, il faut bien penser qu'on a pour l'instant, depuis le début du quinquennat, 15 ministres qui ont quitté le gouvernement. C'est un record. Et à chaque fois se pose la question du banc de touche, c'est-à-dire par qui on les remplace. Donc, un remaniement éventuellement sur les quatre castanères dont parlait Yannick Halimi, peut-être, et encore, on a remarqué depuis le début du quinquennat qu'Emmanuel Macron n'aime pas lâcher ses proches dans la tourmente. Donc le seul cas de figure que je vois, c'est si Gérald Darmanin partait à Tourcoing. Autrement dit, je vois pas de cas de figure imminent.
Oui, moi je reviens, s'il devait changer de Premier ministre, qui serait vraiment le vrai remaniement, ça voudrait dire un changement de cap politique, et il n'en est pas question encore une fois. Emmanuel Macron l'a réaffirmé tout à l'heure, il garde le cap des réformes, et on parlait de petits remaniements techniques tout à l'heure. Effectivement, Agnès Buzyn pourrait voir Jean-Paul Delevoye, qui est le haut-commissaire en retraite.
Qui pourrait rentrer dans le gouvernement pour appliquer la réforme des retraites.
Voilà, ainsi que Elisabeth Borne, qui pourrait rester, non pas être ministre de l'écologie et de transition, mais avoir un secrétaire d'État au transport en tant que tel. Elle était ministre du transport jusqu'à présent. Donc voilà les remaniements techniques, on va dire, qui pourraient avoir lieu dans les semaines qui viennent.
Alors dans les coulisses du pouvoir maintenant, il y a quelques minutes, le président Macron a parlé devant les journalistes accrédités Élysée. Marcelo Westphal, sur le fond, qu'est-ce qu'il s'est dit?
Alors, je ne sais pas si la réunion est terminée, mais François-Xavier Bourmeaux, qui est là-bas pour le Figaro, me disait que ça a duré ça a duré au moins 2 heures, que le président a priori n'a pas fait d'annonce particulière, sauf ce que je vous disais sur le fait qu'il n'y aurait pas de remaniement. Il a parlé, semble-t-il, du fait qu'il a eu longuement Donald Trump au téléphone hier soir. Donc, au-delà du contenu...
Ils vont se voir au G7 à Biarritz dans quelques jours.
Voilà, au-delà du contenu... Dans 3 jours. C'est pas inintéressant de voir que le président de la République essaye de renouer un contact avec la presse. Il l'avait déjà fait l'an dernier dans le même format. Il l'avait déjà fait via la conférence de presse. Essayer à la fois d'être moins au premier rang, mais pas être complètement déconnecté non plus du commentaire de la vie politique, expliquer ce qu'il fait.
Et Yannick Halimi.
Oui, Emmanuel Macron disait tout à l'heure, a rappelé à ses ministres un devoir de vigilance. Il a rappelé que les réformes, devaient être appliquées et qu'il ne changerait pas de cap. Et ce qui peut donner aussi la tonalité, les inquiétudes de façon très concrète du gouvernement, il a appelé son gouvernement à donner des réponses très rapides et de fond en même temps sur les hôpitaux et les transporteurs routiers qui menacent de grève en raison de d'avantages fiscaux qui leur étaient accordés jusqu'à présent et puis de la réforme du chômage sur les contrats courts. Donc voilà, semble-t-il, les deux dossiers chauds aux yeux d'Emmanuel Macron que sont les urgences dans les hôpitaux et un éventuel blocage de la France, en tout cas de mouvements de grève massifs de la part des chauffeurs routiers.
Il reste 30 secondes.
Et j'oublie un dernier point, semble-t-il, il aurait annoncé qu'il va participer aux conventions des conventions dont on parlait tout à l'heure avec les citoyens. Ça reste à préciser, mais si c'est ça, ça donnerait évidemment un écho médiatique à cette nouvelle avatar du grand débat national.
Eh bien, merci d'être venu en parler ce soir. Nos deux invités qui ont répondu à cette saison 3 d'Emmanuel Macron, qui a débuté ce matin avec le Conseil des ministres. Merci Yannick Halimi, rédactrice en chef adjointe du service politique du Parisien aujourd'hui en France. Et merci à vous Marcelo Westphal, journaliste du service politique du Figaro, et vous suivez particulièrement l'actualité de l'exécutif. On va me dire un grand merci aussi à l'équipe du Téléphone Sonne, Hélène Biziot à la réalisation. À la technique ce soir, il y avait Patrick Henry et Florent Bujon. À la préparation de l'émission, Pierre de Certaines, Emma Ferré et Mathilde Sourd. Demain au Téléphone Sonne, à quelques jours de la rentrée scolaire, on va s'intéresser au rapport qu'entretiennent les Français avec l'orthographe et la grammaire.